Bienvenue sur Blaze Radio, la seule émission
radio du lycée
Pascal. Rendez-vous
tous les mois
sur Blaze Radio pour une nouvelle émission.
Bonjour à tous et bienvenue sur Blaze Radio pour notre seconde émission. Une émission qui va nous faire sentir nostalgique, car nous allons parler de l'enfance et de tout l'imaginaire qui l'accompagne. Moi c'est Esteban, votre animateur, et voici Iman qui va m'accompagner pendant toute cette émission. Bonjour Iman.
Bonjour.
Nous sommes aussi en compagnie de Nora qui va aujourd'hui présenter le journal. Salut.
Bonjour.
Nora. Et de tous nos chroniqueurs, Manuela, Michaela, Glory et Emmanuel.
Bonjour.
Dans cette émission, un thème principal, l'enfance, et chacun de nos chroniqueurs va aborder un angle différent de ce sujet passionnant. Maëva va nous parler de la première poupée ivoirienne et de sa créatrice, Sarah Koulibaly, qui sera avec nous. Mais ce ne sera pas la seule. Et oui, aujourd'hui, sur Blaze Radio, nous avons la chance d'avoir deux invités. C'est Muriel Kaku Deto, auteur de littérature jeunesse, qui nous fera l'honneur de sa présence. Vous entendrez également dans cette émission un grand reportage. Glory et Emmanuel se sont intéressés au port de l'uniforme. Pourquoi, depuis quand et surtout, qu'en pensent les élèves? Ce sont autant de questions auxquelles elles vont devoir répondre.
Qui dit enfance dit aussi cinéma et films mythiques. Et mythique, la saga dont Nora va nous parler l'est sans aucun doute. Aujourd'hui, dans sa chronique ciné, Nora nous parle de Avatar 2.
Finalement, pour clôturer dans la bonne humeur et dans la musique cette émission, nous vous proposerons un petit blind test de générique de dessin animé. Un jeu qui va, je l'espère, vous rendre, chers auditeurs, un peu nostalgiques. Mais bon, ça se saura en fin d'émission. En attendant, voici le journal, présenté par Nora.
Blaise Pascal, le journal d'information.
Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du lycée. Au sommaire, c'est le grand retour des mathématiques obligatoires au lycée. Nous en parlerons avec Iman Adefalou Azoumé. Le projet de construction d'un nouveau CDI est en train de prendre forme. Michael Anda nous donnera plus d'informations. Organisation des cours et choix des matières, les mathématiques feront leur grand retour dans le tronc commun pour les classes de première dès la rentrée 2023. Des précisions avec Iman Adefalou Azoumé.
C'est le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a annoncé cette nouvelle le dimanche 13 novembre 2022. Les mathématiques étaient obligatoires en 2018 pour les classes de première et ont finalement été retirées en 2019. Mais pourquoi les réformes de l'éducation changent-elles en si peu de temps pour des classes si importantes? Le ministre a réinstallé les maths pour encourager l'égalité filles-garçons, pour que 2022 soit l'année de promotion pour les mathématiques et pour réconcilier tous les élèves avec les maths. Intégrer les maths dans le tronc commun pourrait aussi permettre plus de choix pour différents métiers. Si on parle autant de l'égalité, c'est parce que les chiffres montrent que la réforme de 2019 a détourné les filles de l'enseignement des maths. Les maths étaient toujours choisis par les garçons, tandis que les filles s'en détournaient.
Qui dit tronc commun dit orientation, et justement nous sommes en plein dans la semaine de l'orientation. Des conférences sont prévues dans les jours à venir pour les secondes, premières et terminales. Un nouveau projet va être lancé au lycée Blaise Pascal, la construction d'un nouveau CDI. En effet, le contrat a été signé ce janvier entre un cabinet d'architecture et le lycée. Notre journaliste Nda Michaela va nous en dire plus.
Effectivement, une réunion des conseillers de vie scolaire, CVC et CVL, s'est tenue en novembre dernier pour informer les élèves du projet de construction du CCC, c'est-à-dire le Centre de connaissances et de culture, qui remplacera notre actuel CDI. La date de lancement des travaux est encore indéterminée, mais nous savons que la signature a été faite début janvier avec le cabinet Kofi et Diabaté. C'est ce même cabinet qui a construit le gymnase en 2016. Les travaux commenceront avant la fin de l'année scolaire et dureront minimum un an. Le coût estimé du projet est d'environ 1 milliard de dollars. Le CCC sera construit dans le prolongement de la salle polyvalente jusqu'à la permanence. L'actuel CDI deviendra donc une salle des professeurs. Pendant le temps des travaux, les élèves devront faire un détour pour accéder au bâtiment F et prépa. Mais que comportera ce CCC ? Eh bien, comme l'actuel CDI, il y aura la bibliothèque et les ordinateurs. On y trouvera également un amphithéâtre pouvant accueillir plus de 150 personnes. Et surtout, un tout nouveau studio pour accueillir les équipes de Blaise Radio.
Merci Nora pour tous ces sujets si intéressants. J'aimerais beaucoup remercier également Michaela et Iman qui ont travaillé sur les sujets. Je laisse maintenant la parole à Iman.
Merci Esteban. Pourquoi porte-t-on un uniforme à l'école ? La question pourrait paraître naïve, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple d'y répondre. Aujourd'hui, nos enquêteuses Glory et Emmanuel se sont intéressées à cet objet qui fait maintenant partie du quotidien des élèves.
C'est Ernest Boca, le premier ministre de l'enseignement, de la jeunesse et des sports, qui instaure le port de l'uniforme scolaire sous son mandat de 1957 à 1959.
De nos jours, tous les établissements scolaires du secondaire sont soumis à cette mesure. Par contre, les établissements du privé peuvent choisir leurs uniformes afin de refléter leurs valeurs. Tandis que les écoles publiques, comme Madame Léba le dit, se doivent de suivre un règlement précis.
Je suis Madame Léba, agent-chef d'établissement au lycée Modène Cocody-Angry. Ici, nous avons des uniformes pour les filles et pour les garçons. Donc le kaki classique pour les garçons et le bleu-blanc pour les filles. La jupe jusqu'à la cheville. Un chemisier, voilà, les garçons, un uniforme, une ceinture noire ou marron, les cheveux rasés de près, je veux dire coiffés de très près, les filles avec des nattes pour le second cycle et coiffées pour le premier cycle. Donc nous avons déjà des uniformes, donc il n'y a pas une autre tenue en dehors des uniformes pour les cours qu'on suit régulièrement en classe. Déjà, voilà, c'est l'école publique, n'est-ce pas ? Voilà, donc c'est pour tous les établissements publics. Mmh. Côte d'Ivoire, on a le même uniforme. Et donc, on respecte le règlement. C'est le règlement qui dit, chaque établissement a un règlement intérieur. Mmh. Donc, selon le règlement intérieur d'établissement, c'est l'uniforme qui est imposé. Donc, en dehors de cet uniforme-là, on ne peut pas porter autre chose. D'accord.
Cette exigence, selon les élèves, les parents d'élèves et les membres de l'administration, a d'énormes avantages. Certains ont voulu rester anonymes.
Déjà, c'est leur montrer comment on se vêtir avec le kaki fourré, avec la ceinture. On vous apprend déjà à vous habiller parce que quand on est, par exemple, demain, on rentre dans, je veux dire, en fonction. Où on s'insère dans la vie active et on est en fonction, il faut s'habiller correctement.
C'est important que les élèves puissent avoir des tenues scolaires. Déjà, ça fait qu'on les identifie rapidement et facilement, puisque ce sont des élèves qui sont en tenue kaki pour les petits garçons et en tenue bleu-blanc pour les petites filles. Donc on sait que celui qui est en kaki, c'est un élève, c'est aussi comme là, c'est un élève également. C'est donc en plein sapin à ce qu'on les identifie rapidement. Et puis quand il y a un problème, s'il y a un souci, on sait que c'est un élève, on a en face de nous un élève. C'est un accident ou une question de sécurité. Donc, ça permet de les reconnaître facilement aussi. Oui. Et puis, même au niveau de l'école aussi, ça permet d'éviter la différenciation aussi, oui, entre les élèves aussi. Voilà, puisqu'il y a des enfants de pauvres, ou des personnes aisées ou de moins aisées. Donc, avec la tenue scolaire, la couleur, même si le tissu, la qualité peut faire une différence, mais on sait que c'est une tenue scolaire, pantalon, chemise, fourré. Voilà quoi. Depuis que l'école est école, depuis très longtemps, on a toujours porté des kakis.
Donc mon rapport aux uniformes scolaires, c'est que les uniformes scolaires permettent d'éviter les discriminations. Du coup, sur un point de vue social, on est tous au même niveau. Et puis c'est tout.
Les arguments qui reviennent souvent pour défendre les uniformes scolaires sont le fait que ces derniers procurent une protection à l'individu qui le porte. En effet, on reconnaît l'écolier par son uniforme comme on reconnaît un policier dans la rue. Cela inspire également un sens de responsabilité, comme le dit Adama Ouattara, un psychopédagogue, dans son article d'Abidjan.net. Il amène aussi l'élève à représenter son établissement et aussi à incarner les valeurs promues par l'école, tout en apprenant à se vêtir de manière professionnelle et correcte. De plus, les uniformes scolaires protègent les élèves des inégalités sociales et économiques. Ces inégalités qui peuvent générer des moqueries ou encore de la convoitise au sein des élèves.
C'est pour ces raisons que l'ancienne ministre de l'Éducation Kandia Camara, le 25 juin 2011, réimpose les uniformes scolaires dans les établissements, qui ont été libéralisés. C'est-à-dire que les parents avaient le choix d'acheter ou non des uniformes à leurs enfants sous le mandat de l'ancien ministre de l'Éducation, de 2000 à 2007, Michel Nguessan Amani. La libéralisation des uniformes scolaires avait pour objectif de permettre aux enfants de familles démunies d'accéder à l'école, malgré leur manque de moyens. Mais cette mesure a été fortement contestée par les associations de parents d'élèves, comme l'atteste ce parent d'élèves du lycée moderne d'Angré.
Ça fait désordre, et ça crée les frustrations des élèves eux-mêmes. Parce que moi, j'ai vu mon ami de classe, mon voisin, porter peut-être une chaussure de Mac, par exemple, moi, je n'en ai pas.
Oui.
Tu vois ce que je dis?
Oui.
Alors que le kaki, là, il résout tout.
Oui.
Donc, ça peut amener les élèves même aller voler. Bien sûr, si lui, son père ou sa mère n'ont pas les moyens de payer une chaussure de Mac que son voisin a, et alors qu'il veut l'avoir à tout prix, il fait quoi? Il peut aller voler, il peut aller souhaiter de l'argent de ses parents, chose qu'ils font très souvent les enfants, pour aller acheter quelque chose parce qu'il avait son ami.
Mais le port de l'uniforme scolaire obligatoire se heurte à des limites, comme vous le diront les personnes qui sont contre, mais qui reconnaissent quand même les avantages de celui-ci.
L'uniforme, ça nous fait ressembler à des prisonniers parce qu'on est tous habillés pareil. C'est un peu comme des clones, tu vois. Ça nous fait un peu perdre notre personnalité.
Bon, pour moi, j'aurais voulu venir en tenue civile parce que là, c'est plus... Je me sens à l'aise, décontracté et puis léger sans avoir de porter chaque jour le même habit et de le laver.
En effet, les uniformes scolaires empêchent toute forme d'expression de soi à travers ses vêtements. L'individu s'efface au profit de la masse car son expression est limitée ou tout simplement rejetée. On remarque également que les individus de minorités religieuses ou ethniques peuvent se sentir mal à l'aise dans ces vêtements qui effacent leur identité culturelle ou religieuse.
Les uniformes, pour certains, sont passéistes car ils imposent le port de jupes pour les filles et de pantalons pour les garçons. La longueur des jupes pose aussi problème dans certains établissements, comme le collège privé de Bayanao de Bongolo. Ils rendent les jupes plus longues sous prétexte de vouloir freiner la sexualité et les grossesses précoces en milieu scolaire. Mais cela est pour certaines très inconfortable.
Je suis au lycée moderne Cocody Angré. Je m'appelle Grace Emmanuela. Jusqu'à moi-même, ils ont cousu une jupe, une grosse jupe comme ça. Et puis, c'est parti à l'école. Ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a marché sur la jupe et puis, c'est tombé. J'ai mis en foutaise là-bas, mis en foutaise. Il dit qu'on a fait ça gros et puis ça va traîner. Et puis on va marcher. Tout le monde va nous regarder. C'est quoi ça? Non, on va porter habit de maison pour partir à l'école. Hey, on a trop frais. Vous même remarquez, quand même vous êtes au quartier, vous portez habit de maison et vous passez. Voyez le groupe, vous voyez les frais. Mais vous voyez ça comment?
Cette mesure rend également les filles coupables du regard que les autres leur portent avec ou sans leur consentement. Mais pour Madame Leba, la combinaison des deux est plus sûre et préférable.
Éviter de tomber, puisque maintenant la politique c'est zéro grossesse, n'est-ce pas? Voilà, en cours de scolarité. Donc les jupes à la cheville, ça évite beaucoup de choses. Parce qu'on sait que dans les classes, parfois les filles, comme on appelle, il y a des petites filles qui sont très libérées. Voilà, des jeunes filles, je veux dire, pas des petites filles, mais des jeunes filles qui sont très libérées, donc qui sont aguicheuses. Voilà, donc elles ont des postures dans la classe et tout ça. Mais avec une jupe à la cheville là-bas, voilà, on ne verra rien, ça réduit ces effets-là. On prétend pas peut-être prendre tout en compte ou bien voilà, limiter, mais on va limiter quand même, voilà. On peut pas peut-être tout freiner, mais on va limiter beaucoup de choses.
D'accord.
Des moyens, mais c'est pas le moyen. Il y a plusieurs moyens pour freiner tout cela. Il y a des sensibilisations qu'on fait, tout ça. Les sensibilisations, il y a des ONG qui viennent, voilà, pour parler. Ils viennent, ils prennent attache avec nous. Et puis, voilà, les enfants, il y a des conférences pour les sensibiliser. Voilà, on en parle aussi. Les éducateurs sont là pour cela. Les inspecteurs d'orientation, les inspecteurs d'éducation, les censeurs. Il y a tous les services font la même chose parce que nous sommes tous des encadreurs. Bah, nous sommes tous des encadreurs, donc nous faisons ce travail que nous faisons au quotidien.
D'accord.
Voilà, nous faisons ce travail au quotidien. Il faut apprendre à la jeune fille à être plus confiante. Il faut qu'elle assume, faut qu'elle soit responsable. Voilà.
Les uniformes scolaires en Côte d'Ivoire imposent donc une vision binaire du genre, aliénant les élèves qui ne se reconnaissent pas dans ces deux genres. Mais pour ceux qui s'identifient au genre opposé, les uniformes, au lieu de les mettre au même niveau que les autres élèves, les mettent plus en valeur, ce qui les expose à de l'attention non désirée, comme le dit Conan, élève de terminale. Pour lui, porter des vêtements qui ne nous conviennent pas et qui en plus invitent des commentaires gênants va à l'encontre du but des uniformes scolaires. Je paraphrase bien évidemment ce qu'il a dit.
Le processus de changement d'uniforme n'est pas facile, car l'uniforme semble se baser sur le sexe et pas le genre, malgré le fait que l'éducation nationale française stipule, selon Radio France, la prise en considération de l'identité de genre revendiquée de la part d'un ou d'une élève ne doit pas être conditionnée à la production d'un certificat ou d'un diagnostic médical ou à l'obligation d'un rendez-vous avec un personnel de santé. En Côte d'Ivoire, la question de l'identité de genre n'est pas aussi prise en compte que celle de l'égalité entre les genres.
En conclusion, les uniformes scolaires font partie des caractéristiques de l'école ivoirienne ou tout simplement de l'école en Côte d'Ivoire, car elles permettent de remédier aux problèmes auxquels fait face le pays, tels que les fortes inégalités économiques et sociales. Malgré les freins à la liberté d'expression et une certaine incompatibilité avec les élèves non binaires, couplée à la lutte que mènent les élèves qui s'identifient au genre opposé pour des uniformes qui affirment leur genre, les uniformes scolaires persistent. C'est 3,5 millions d'uniformes scolaires vendus en Côte d'Ivoire l'année dernière. On peut donc émettre l'hypothèse que les uniformes scolaires s'adapteront et évolueront avec la société ivoirienne.
Nous aimerions connaître vos avis. Êtes-vous pour ou contre le port de l'uniforme ?
J'ai beaucoup aimé réaliser cette enquête, mais en tant que reportrice, je dois être neutre. Par contre, Maëva a un avis bien plus intéressant.
Effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire sur le port de l'uniforme, mais je pense que nous n'aurons pas suffisamment de temps pour que je puisse m'exprimer. Cependant, je pense que l'uniforme a pour but d'empêcher les différences entre les élèves, mais inconsciemment, l'uniforme met chaque élève dans une cage et l'oblige à devenir quelqu'un qu'il n'est pas. Je pense que l'uniforme tue l'originalité de chaque personne et aussi, inconsciemment, encore une fois, peut-être que ce n'est pas le but de nos directeurs. Mais l'uniforme est une forme de marginalisation pour la femme parce que, comme on peut le voir avec les écoles ivoiriennes publiques, on oblige les filles à porter des jupes qui arrivent au mollet, par exemple, sous prétexte qu'elles sont le fait de porter des jupes plus courtes ou des jupes qui arriveraient aux genoux les rendent très attractives pour les hommes. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le problème vient des jeunes filles qui vont juste à l'école ou des hommes qui les regardent d'une manière inappropriée et qui ne peuvent pas se contenter de faire cours avec leurs élèves. Donc pour moi, l'uniforme, ce n'est pas forcément quelque chose de bien et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait encore réfléchir.
Wow ! Merci encore pour cette enquête qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur un sujet que nous portons tous les jours à l'école. Passons maintenant à l'interview.
C'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin. C'est pas la peine de me montrer vos dents. C'est pas l'amour qui me retient, bébé. C'est la paresse que tes appels m'emmènent après le moubou. Je vois la fierté dans vos...
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux invités à Blaise Radio. Mais je laisse Maëva et Michaela nous les présenter.
Bonjour Sarah Koulibaly.
Nous sommes très heureuses d'accueillir la première créatrice de poupées ivoirienne pour cette deuxième émission de Blaise Radio avec la thématique « Retour à l'enfance ». À ses côtés, Muriel Kouakou Deto, écrivaine et professeure au lycée Jean Mermoz depuis 7 ans. Elle a choisi de mettre son savoir et ses connaissances au service des plus petits. C'est un honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui. Commençons par vous, Madame Koulibaly. C'est en 2015 que l'aventure démarre pour vous. Après la naissance de votre fille aînée Naïma, vous voulez lui offrir un jouet qui a les mêmes traits qu'elle, mais malheureusement n'en trouvez pas. Jeune ivoirienne architecte de formation, vous mettez alors sur pied votre entreprise de création de poupées africaines qui deviendra un véritable empire. Vous avez créé Naïma Dolls en 2015. Pensiez-vous dès le début que votre marque aurait autant de succès ?
Alors bonjour à tout le monde, merci de me recevoir. Je suis très contente d'être parmi vous et merci d'avoir fait toutes ces recherches sur moi. Tout est vrai. Effectivement, j'ai une petite fille qui a 8 ans aujourd'hui, qui s'appelle Naïma et qui est à l'origine de toute cette aventure. Et non, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, que j'allais avoir autant de personnes qui allaient suivre mes aventures.
Était-ce difficile pour vous d'imposer votre marque parmi tant d'autres, en particulier lorsque, depuis toujours, les gens ne connaissent que des poupées à la peau blanche ?
Oui, ça a été difficile, mais c'était aussi le chemin qu'il fallait parcourir pour finalement changer les choses. Nous, on a changé les choses, on a changé des règles qui étaient préétablies. Il fallait avoir un dialogue avec les distributeurs, avec la population, avec les enfants qu'il fallait convaincre. Et ça a pris 7 ans, jusqu'à la 8e année où aujourd'hui on peut considérer qu'on est totalement légitime. Et donc ce temps et ces difficultés étaient le chemin qu'il fallait parcourir peut-être pour ouvrir la porte à d'autres marques et à d'autres initiatives qui vont dans le même sens que ce que nous on est en train de faire aujourd'hui avec Naïma Dolls.
Justement, quel conseil donneriez-vous aux jeunes futurs entrepreneurs qui auraient peur de se lancer dans quelque chose d'inconnu mais qui resterait quand même original pour eux ?
Il y a quand même deux choses que moi je tiens à dire. De nature, je suis une personne très sensible, on va dire ça, et avec une âme d'enfant. Ce sont des choses qui, dans la vie de tous les jours, peuvent être considérées comme des défauts, mais ce sont des choses qui ont été mes plus grandes qualités dans Naïma Dolls. Donc ce que je dirais à une jeune fille qui a peur de se lancer, c'est de continuer à avoir peur, parce que justement la peur est un très bon moteur. Et quand on arrive à mettre dans le même sac, à transformer ses peurs en qualité, ou en tout cas en raison de se transcender, avec les qualités qu'on a et ce qu'on apprend à l'école, avec un peu de travail, ça peut bien se passer.
Quelles ont été les critiques que vous avez reçues au début ? Elles étaient positives, négatives ?
Non, enfin, tout dépend de une critique, ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on la reçoit. Hein. Sinon, vraiment, tout dépend de comment moi je l'ai perçue. Les critiques ont été dans un premier temps des raisons de mieux faire. Et là, effectivement, il fallait entendre les gens. On n'oblige pas les gens à acheter ce qu'ils ne veulent pas. Donc, si on demande des améliorations, ça nous a permis d'avoir un produit qui était aux normes internationales pour que Naïma Dolls puisse s'exporter. Si on n'écoutait pas les critiques, on n'allait pas essayer de s'améliorer, on aurait peut-être été au même stade. Donc ça a été bénéfique. Pour tout le reste, ça a été plutôt un dialogue. Quelqu'un qui critique peut être une personne qui ignore. Donc ça peut être un cadre, au contraire, de dialogue pour faire comprendre à la personne son parti pris et peut-être l'emmener vers soi. Concrètement, j'ai commencé avec un tout petit lot dans une chambre et aujourd'hui, l'évolution de l'entreprise montre que les personnes qui étaient sceptiques ont été de plus en plus convaincues. Donc les critiques nous ont permis d'avancer et les personnes ont été, je pense, au fur et à mesure un peu plus convaincues.
Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, bonjour Madame Kakou, passons à vous maintenant. Vous avez un parcours scolaire très intéressant. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Bonjour Michaela, bonjour Maëva, bonjour Sarah.
Bonjour.
C'est un honneur pour moi d'être ici parce que j'ai eu mon bac dans ces locaux. Donc c'est avec une vive émotion que je suis là et je vous remercie. Alors oui, j'ai un parcours à temps soit un peu atypique parce que comme je vous ai dit, j'ai eu mon bac au lycée Blaise Pascal. Ensuite, je suis allée à Paris intégrer une école de commerce. Donc j'ai eu un bachelor, ensuite j'ai fait un European Master. Option Luxury Brand Management et je me souviens déjà que mon mémoire en bachelor était comment démocratiser la mode africaine à l'international, donc chez Zara, chez H&M, bon, c'était mes références à l'époque sans vouloir faire de pub et donc du coup je me suis dit un jour forcément la mode africaine prendra le monde. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? J'ai eu la chance d'intégrer le groupe Hachette et Atier en stage. J'ai aussi eu mon stage de fin d'études au Printemps Haussmann. Voilà, un magasin prestigieux. Et je me suis dit, j'ai toujours aimé l'anglais et je me suis dit que je voulais pas, parce que j'aime beaucoup apprendre. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et je me suis dit que j'aimerais parfaire mon anglais. Donc j'ai décidé d'aller à Los Angeles, à l'Université de Californie, où j'ai eu 2 certificats en cinéma et en cinématographie. Cinématographie et movie, voilà. Donc Après ça, j'ai eu la chance aussi d'être figurante sur des tournages. Et alors là, vous allez vous demander comment je suis arrivée à l'écriture. Bon, j'en viens. Je dirais que je suis un peu comme un chat. J'ai eu plusieurs vies dans une vie. Et j'en suis rentrée ensuite en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai eu aussi un petit parcours entrepreneurial où j'avais lancé une marque de vêtements et de bijoux qui s'appelait Muriel K à l'époque, parce que Muriel Kakou est mon nom de jeune fille. Et ça a été difficile parce que il faut pouvoir compter sur les tailleurs, sur les bijoutiers. Et j'aime pas compter sur les autres, mais j'aime avant tout compter sur moi. Voilà, sur mon savoir-faire. Et je n'avais pas les compétences, donc l'aventure n'a duré que 2 années. Et là, j'ai eu ma première fille. Et je voulais réellement faire un métier qui me permettrait d'être en phase avec les enfants, parce que j'aime beaucoup les enfants depuis toujours. J'aime apprendre, mais j'aime aussi partager mon savoir. Et alors là, j'ai postulé. Bon, je me suis dit, avec mon diplôme en marketing, qui voudrait de moi? J'ai postulé un peu dans les établissements et j'ai été prise à Bermouze. Alors, après, j'ai eu des formations, j'ai eu un diplôme universitaire en sciences du langage. Et donc, ça fait 7 ans que j'enseigne au lycée Jean Mermoze. J'ai eu 3 ans au CE2 et là, c'est ma 4e année en grande section. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours été passionnée de cinéma, d'écriture. J'aime tout ce qui va de la conception à la réalisation, donc un projet. Et alors, j'avais cette histoire dans un tiroir et on va dire que ça a été un événement malheureux qui m'a poussée à ouvrir mon tiroir et à envoyer mes manuscrits à une maison d'édition. Parce que moi, j'ai toujours baigné dans l'univers du livre depuis petite parce que mon père était éditeur. Et donc, il nous a vraiment inculqué le goût de la lecture et de l'écriture. Déjà, on écrivait. Et à ce moment-là, donc, j'ai envoyé mes manuscrits et voilà comment l'aventure a démarré.
Mais est-ce que vous vous attendiez à ce que vos livres intéressent autant de personnes, que ce soit des aventures aussi intéressantes pour les jeunes?
L'histoire, je me disais qu'elle pouvait intéresser parce que pour moi, la lecture est une question d'identification. Moi, j'ai grandi avec Martine, avec le Club des Cinq. Bon, ce sont des personnages qui sont blancs. Donc, c'était intéressant pour moi. C'est important pour moi de pouvoir créer des personnages auxquels les petites filles ou les petits garçons pouvaient s'identifier. Je ne m'attendais pas à autant de succès. Je vais dire que c'est la petite étoile. parce que mon père est décédé en fait. Enfin, et l'écriture a été une thérapie pour moi. Voilà. Donc c'est à partir de là que tout ça a commencé. Et je suis vraiment honorée que cela plaise à autant d'enfants et impacte. Parce que par ce métier en fait, je veux surtout impacter les enfants et pouvoir leur inculquer des valeurs. Et ça passe aussi par la lecture.
Est-ce que vous pensez que la lecture a réellement un rôle déterminant dans le développement d'un individu? Par exemple, si vous aviez grandi avec d'autres personnages qui vous ressemblaient, est-ce que vous pensez que vous auriez été une personne différente aujourd'hui?
C'est fort probable parce que vous savez qu'il y a une période dans la vie où on ne sait pas très bien qui on est et on peut trouver des réponses dans les livres. Donc je pense que c'est important qu'il y ait des personnages auxquels la jeune fille ou le jeune homme puisse s'identifier. Et j'ai aussi ce côté un peu moralisateur. On avait tendance à m'appeler inspecteur des travaux finis, où c'est important de pouvoir transmettre des valeurs aux enfants comme l'abnégation, donc pouvoir travailler dur pour réaliser ses rêves, la reconnaissance. Donc je pense que c'est très important. La lecture est fondamentale pour le développement d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte.
Et selon vous, comment on pourrait améliorer justement cet intérêt à la lecture? Car aujourd'hui, on remarque que les jeunes se détachent de plus en plus à la lecture.
Bah justement, en créant plus de personnages locaux, on peut créer... moi, par exemple, en ce moment, y a une jeune fille qui s'appelle Karma, qui a les cheveux un peu comme vous, un afro. Et les jeunes filles, du coup, ne sont plus complexées d'avoir un afro. Donc, je pense que toutes ces choses qui sont mises sur le grand écran, doivent aussi être transmises dans des livres pour que les enfants où les adolescents s'identifient. Je parle beaucoup d'identification parce que à travers les livres, on transmet une culture, on transmet un message, et ça, c'est important.
Ok, merci beaucoup. Pour vous également, Madame Koulibaly, est-ce que avoir une poupée qui a la même couleur de peau et les mêmes traits peut réellement impacter la petite fille qui aurait la poupée dans les mains? Et si oui, comment?
Il est dit par des études hein, qu'un enfant passe autant de temps à jouer qu'un adulte à travailler. Donc la petite fille crée son imaginaire, cherche un vis-à-vis en utilisant justement tous ces éléments de son quotidien. Le parent a le devoir de mettre dans la main de cet enfant qui est totalement innocent un objet, un jouet qui lui permettra d'avoir le bon reflet d'elle-même. On est, à mon sens, de la deuxième génération. Donc, quand je prends nos parents, nous sommes de la deuxième génération. Donc, nous avons eu pour compagnons des poupées blanches, des poupées Barbie. Moi, j'en ai eu. Et quand on regarde les dégâts sur notre génération, donc on a des questions de dépigmentation, on a quand même de quoi, en regardant la société, on a de quoi savoir, en fait, les impacts de tout ça. Aujourd'hui, pour une petite fille, il est important qu'elle ait, dans tous les éléments de son quotidien, que ce soit dans sa bibliothèque ou dans ses jeux, des personnages qui lui ressemblent, et à elle maintenant de faire le choix de garder ses cheveux afro. Mais j'espère qu'elle choisira justement de ne pas se dépigmenter, de garder ses cheveux afro, et elle essaiera de mieux connaître son identité.
Ok. Et que pourriez-vous dire à ces parents et enfants qui refusent encore d'acheter des jouets qui leur ressemblent? Ceux qui idéalisent toujours la poupée blanche et qui trouvent que la poupée noire est moins belle.
Je leur dirais que faire en sorte qu'ils aiment les poupées noires, c'est mon travail. C'est à nous de créer justement des produits attractifs. C'est à nous de faire... en réalité, la marque Barbie, pour ne pas faire de publicité, rentre dans nos maisons avant même que l'enfant ne soit conscient, par la télé, par la radio, par beaucoup de marketing et de communication. C'est comme ça qu'on vulgarise une marque. Donc nous qui sommes derrière, nous devons faire ce travail-là. Nous devons rendre nos marques de plus en plus fortes pour que les enfants les réclament et que les produits ne soient pas achetés juste uniquement que parce que le parent trouve qu'il y a du sens, mais que les enfants également ressentent le besoin d'avoir ces poupées. Donc ça, c'est notre travail et c'est ce qu'on essaie de faire depuis toutes ces années.
Ok, merci. Aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire est fière de vous avoir, de pouvoir vous compter parmi ses entrepreneuses. Et nous pouvons même dire que vous participez à la promotion culturelle du pays, l'une autant que l'autre. Pensez-vous que la culture ivoirienne et même africaine est correctement et suffisamment transmise à la jeune génération? On va commencer par vous.
Je pense que non. Je pense que non. Et je pense que déjà, ça commence déjà par la découverte au niveau des continents. Ce serait déjà bien que les parents puissent permettre à leurs enfants de découvrir des pays africains et pas toujours aller aux États-Unis ou en France. Je veux dire, on a des merveilles, on a des pépites en Afrique et c'est très, très important. Et je l'ai souligné dans la couronne à Caen, par exemple. C'est la petite couronne qui va à New York et elle rencontre des touristes qui sont vraiment en extase et qui disent « Waouh, vous êtes de la Côte d'Ivoire, moi j'aimerais visiter la basilique, j'aimerais visiter le pont de Liane. » Donc pour montrer qu'ici aussi nous avons un patrimoine et ce serait bien que ce soit dans le sens inverse et pas toujours... voilà, il y a des choses à faire. Mais malheureusement, c'est pendant le Covid que beaucoup de gens ont compris que la Côte d'Ivoire regorgeait de richesses et de pépites. Et je pense qu'à travers les livres, c'est vraiment intéressant de le souligner. Et je parle même aussi dans Amla et Félix du jardin botanique. Parce qu'on connaît la ville de Bingerville, mais beaucoup ne savent pas qu'en fait, le jardin botanique, c'était le jardin du gouverneur Engoulevent, par exemple. Donc, c'est des choses... parce que c'est vrai que pour un adolescent, le côté pédagogique peut être un peu lourd. Alors qu'à travers la lecture, c'est ludique. On apprend des choses, on a des personnages. Voilà. Et je pense que c'est important aussi que les grandes sœurs ou les grands frères continuent à lire des histoires aux petits. Ça développe vraiment... Déjà, ça crée des liens. Là, c'est l'enseignante qui parle. Ça crée des liens, la lecture. Ça crée des liens, ça peut créer une communauté. On peut changer les choses à travers des clubs de lecture. On peut réfléchir à changer, à changer le monde. Et je félicite au passage Madame Koulibaly. C'est vraiment... C'est formidable. Voilà.
Et vous, Madame Koulibaly?
Moi, je pense, quand j'observe les success stories de Black Panthers, de marques africaines qui font des cartons aux États-Unis, quand je regarde l'histoire, nos histoires communes, Je trouve que les Africains arrivent à susciter de l'intérêt quand ils parlent de leur culture. Parce que justement, ils disent aux gens ce que les gens ne savent pas. On n'a aucun intérêt à ce qu'on vienne parler du cassoulet ou qu'on reparle de la petite sirène parce que c'est vu et revu. Nous, on a quand même l'avantage d'avoir encore des choses à dire dans un monde où tout le monde a déjà tout dit. Partant de ce fait-là, tout ce qui peut constituer la culture africaine dans l'imaginaire africain, dans les personnages, dans nos tissus, intéresse le monde. Et je pense que le monde attend de nous, justement, qu'on leur parle de ça. À chaque fois que ça a été fait de cette façon, on a eu automatiquement du succès et de l'intérêt. On a du désintérêt quand on veut mimer ce qu'on n'est pas. Et là, on n'est pas confortable parce qu'on essaie de copier et ça ne peut pas durer très longtemps. C'est pour ça qu'il est vraiment important de se rendre compte que c'est une force que nous avons dans un monde où justement tout le monde a utilisé toutes ses cartes et que nous avons la possibilité de créer justement du tourisme dans l'autre sens. C'est vrai qu'on a été, nous, plus dans des voyages en dehors de la Côte d'Ivoire, etc. etc. Mais moi, ma fille, grâce à Internet, grâce à tout ce qui est fait comme initiative, même si elles sont encore embryonnaires, me pose des questions. Elle se demande, le Sénégal, c'est où, maman? Parce qu'elle a déjà entendu. Et ça, c'est peut-être ce qu'on fait comme travail toutes les deux et d'autres personnes qui sont, voilà, on verra l'impact sur nos enfants ou nos petits-enfants. Mais il y a déjà des initiatives et je vois déjà les lignes en train de bouger. Et ça, c'est quand même important.
Merci beaucoup pour vos réponses très intéressantes.
Ce fut un réel plaisir de discuter avec vous. Merci infiniment à Madame Kakou et à Madame Koulibaly de nous avoir accordé cette interview. Nous espérons que vous avez apprécié ce petit moment passé avec nous et nous avons hâte de voir vos prochaines réalisations.
Merci à vous.
Ça fait plaisir de voir des initiatives africaines comme celle-ci. Encore une fois, félicitations pour tout votre travail et merci beaucoup à vous deux d'être venus dans cette émission de Blaise Radio. Dans quelques instants, nous écouterons Nora qui nous parlera de la suite d'un film mythique qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans la rubrique cinéma, Nora nous parlera de Avatar 2. Mais avant, nous vous proposons un petit interlude musical. Voici la chanson « Mon roi » de notre parrain Youssoufa.
Ta mère va râler en découvrant ce texte. Elle dira que c'est trop cru, je la comprends. Tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je vais faire genre, je suis philosophe alors que je suis grave bourré en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants, enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre. Choisis-en une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien moi, j'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille. Je vais pas te mentir, face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai. Sinon toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. On te dira l'argent fait pas le bonheur. Mais la raison du plus fort, c'est toujours la meilleure. Laisse pas la peur te mener à rien. Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens. Y'a pas d'excuse à être un clandeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Quand tout ce que t'as construit s'écroule, je sais, c'est l'enfer. Et si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire. Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal. C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original. Tous les hommes naissent égaux, au moins à l'intérieur. Les blancs aussi naissent égaux, mais égaux supérieurs. Comme nous tous, plus jeune, t'auras grave du temps à perdre. Tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde. Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène. On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Juger est une erreur, t'es pas meilleur que les autres. C'est juste que tes péchés sont différents des leurs. Les religions, pourquoi pas, mais la foi c'est mieux. Et la plupart des religieux vont t'éloigner de Dieu. Même les plus belles choses s'arrêtent, il faut que tu l'acceptes. Même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête. Il faut savoir passer à autre chose, c'est normal. Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent mal. Quand tu coucheras avec une fille, sois tendre toujours. Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour. Et surtout, va pas te comparer au film de boule. C'est comme les Avengers, c'est faux même si ça paraît cool. Si vous sortez, c'est toi qui invite. Les bails de chacun paient sa part, ça fait radin et puis ça tue le charisme. Si embrouille qu'elle te répond qu'il n'y a pas de problème,
ça veut dire qu'il y a un putain de problème. Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi. Elle connaît par cœur ta peinture, je connais même pas ton âge. C'est en toi que je crois. Je sais que t'es le plus grand d'entre nous, c'est pour ça que je t'ai appelé mon roi. Sache que le pire ennemi de l'amour, c'est la peur. Toi t'es courageux justement parce que parfois tu pleures. C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux, mon roi.
Nous revoilà sur Blaise Radio, merci d'être encore au rendez-vous. J'en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner aux réseaux sociaux de Blaise Radio, Insta et TikTok, Blaise Radio en minuscule. Et nous vous informons d'ores et déjà qu'une chaîne YouTube avec des retransmissions d'émissions ne devrait pas tarder à être créée. Donc pour ne rien rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, revenons à nos moutons. Comme l'a très bien dit Iman tout à l'heure, le mois dernier est sorti la suite d'un film mythique qui a bercé l'enfance de beaucoup de monde. Dans la chronique ciné, aujourd'hui, Nora nous parle de Avatar 2.
Bonjour à tous. Depuis le 16 décembre 2022, le deuxième volet du film Avatar de James Cameron est au programme dans les salles au Majestic Cinéma. Mais avant d'en parler, faisons d'abord un bref résumé du premier pour se rafraîchir la mémoire. L'action se déroule en 2054 sur la lointaine planète Pandora. Jake, ancien marine, est chargé d'infiltrer la tribu Na'vi et de les convaincre de quitter leur terre et de permettre à la société humaine de les exploiter. Jake doit alors choisir entre sa loyauté humaine et Na'vi et décide de se battre pour protéger Pandora et son peuple. Attention, pour ceux qui n'ont pas vu Avatar 2, les prochaines informations sont des spoilers. Alors dans ce deuxième volet, Jake forme une famille de 4 enfants avec Neytiri. Il mène une existence tranquille jusqu'à ce qu'une ancienne menace ressurgisse et qu'il soit contraint de s'exiler dans la tribu Metkaina, le peuple de l'eau. En dehors de l'histoire mise en avant pendant le film, il aborde subtilement le thème de l'intégration dans une nouvelle société. En effet, suite à son exil, la famille Sully devra s'adapter au mode de vie de la tribu de l'eau, physiquement différente, et apprendre à vivre avec celle-ci, ce qui ne sera pas de tout repos pour les enfants. Ceux-ci ne seront pas épargnés des moqueries des autres enfants, leur intégration n'est donc pas de tout repos. Mais les enfants qui en souffriront le plus sont Loak et Kiri. Ces deux-là possèdent des traits humains, 5 doigts aux mains et aux pieds, mais aussi des sourcils. Mais au fil des jours, ils commencent à se lier d'amitié avec les enfants de la tribu de l'eau. Même en dehors du film Avatar 2, nous savons qu'être intégré peut être difficile pour les adolescents dont la confiance en soi est faible. Malgré ça, il faut se rappeler que c'est une question de temps et que tout vient à point à qui sait attendre. Merci pour votre écoute, à la prochaine.
Merci Nora, mais juste avant que vous partiez, nous voudrions savoir qu'est-ce que tu as pensé du film. Penses-tu que toutes ces années, 13 ans si je ne dis pas de bêtises, d'attente ont valu le coup?
Je pense que ces années ont valu le coup pour ceux qui les ont attendues, parce que moi j'ai regardé le film Avatar 1 il y a un an exactement. Et je pense que pendant toutes ces années, la technologie a beaucoup évolué et ont permis d'avoir un graphisme pendant le film plus intéressant à voir. Surtout qu'il est en 3D en ce moment au Majestic Cinéma.
Merci beaucoup Nora, je suis persuadée que ta chronique a convaincu les quelques personnes qui ne les avaient pas encore vues à prendre leur voiture et à foncer vers le cinéma le plus proche. Bon, pour clôturer cette émission dans le rire, la bonne humeur, mais aussi, je pense, dans la nostalgie, Glory, la technicienne de cette émission, qu'on peut d'ailleurs remercier, car sans elle, l'émission n'aurait probablement pas la même tête, et moi-même, vous proposons un petit blind test des génériques de dessins animés. Le principe est simple, vous allez entendre des extraits de génériques de dessins animés connus, plus ou moins longs, en fonction de leurs difficultés. Le premier qui trouve, gagne. À chaque fois, je vous donnerai quelques petites anecdotes pour pimenter un petit peu l'expérience. Vous êtes prêts ?
Oui.
Je pense qu'on peut commencer avec le premier.
Total Spice.
Je voulais répondre. Hein.
C'est pas. Ouais, du coup, c'est Michaela qui a réussi. C'était bien. Donc, les Total Spice, et pour la petite anecdote, tout le monde a déjà regardé, je pense, un épisode au moins de cette série de dessins animés juste mythiques. Et petit fun fact, c'est rare que ce le soit, mais il s'agit d'une production française qui a quand même été diffusée dans plus d'une centaine de pays, 130 pour être à peu près exact. C'est ce que j'appelle la classe à la française. On peut passer au deuxième, un petit peu plus dur celui-là.
Harry
La
panthère rose. Ça, c'est mon époque.
Moi, j'ai pas regardé. Par contre, je ne sais juste pas qui c'est qui a dit en premier. Bon, on va dire ça. Il y a Madame Kaku qui a trouvé, il y a Maëva qui a trouvé. Moi, j'ai une. Donc, il s'agit bien de la panthère rose. Donc, ce son de saxophone que vous venez d'entendre a été composé par un certain Henri Mancini. Désolé à tous les Italiens qui nous regardent, j'ai probablement écorché son nom. Et la panthère rose a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1965, et en partie grâce à cette merveilleuse musique. On peut passer au troisième, un tout petit peu plus dur, mais un peu moins quand même.
Aïe, l'abeille!
Non, je suis pas d'accord. Je l'ai dit avant elle. Moi, Iman Adefalou Azoumé, je l'ai dit avant Maëva.
On va dire qu'il y a un demi-point chacune.
Non.
Un demi-point.
Non, je l'ai dit avant Maëva. Je confirme, je l'ai dit avant Maëva.
Bon, bah. C'était bien Maya l'abeille. Et je pensais que ce serait plus dur à trouver. Du coup, pour la petite anecdote, vous avez, bon, comme Total Spice, vu probablement un épisode, au moins une fois dans votre vie, mais cette petite abeille est bien plus vieille qu'elle en a l'air. Elle est apparue la première fois dans un roman d'un écrivain allemand nommé Waldemar Bonsei. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y en ait des auditeurs allemands, mais excusez-moi. Et ce roman s'appelait Maya l'abeille et ses aventures et date de 1912.
C'est Maëva qui a eu le point. Je tiens à dire que c'est Iman qui a eu le point.
Et je tiens à dire que la prochaine, ça va crier. Cher auditeur, baissez un peu le volume parce qu'ils vont le trouver très rapidement. On peut envoyer le quatrième.
La Schtroumpf.
Elle m'a poussé. Elle m'a rien, dépêche-toi. Maëva, on continue.
Elle est trop rapide, mais.
Ouais. Non, j'avais prévenu que celui-ci serait assez rapide, quand même mythique.
Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. Viens, dépêche-toi.
Alors, je vous préviens, cette anecdote sera schtroumpfement bien. Vous connaissez donc tous le personnage du grand schtroumpf, je suppose.
Oui.
Ok. Eh bien, il y a certains fans, je ne sais pas comment ils ont fait, ils se sont amusés à calculer l'âge du grand schtroumpf. Eh bien, figurez-vous que selon eux, le grand schtroumpf aurait 542 ans. Rien que ça. Alors, je préfère prévenir celui-là. On l'a volontairement coupé parce que le nom est prononcé. Vous allez le trouver rapidement, lui aussi, je pense. C'est parti.
Oui, 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 oui. C'est Iman qui l'a dit.
Il s'agit bien donc de Oui Oui. Et cette anecdote, je pense, va faire plaisir à tous les fans de manga et d'anime qui nous regardent. Saviez-vous que celle qui a fait la voix de Oui Oui, Brigitte Lecordier, est également celle qui a fait la voix du personnage Son Goku dans Dragon Ball? Alors, on va pas se mentir, le prochain, je ne le connaissais pas. Et apparemment, tout le monde le connaissait. Du coup, je ne sais pas trop. Je pense que celui-ci va être trouvé assez rapidement. C'est parti.
Oui,
non, Emmanuel s'est jeté sur le micro. Emmanuel s'est jeté sur le micro. Si, je pense qu'on peut l'accorder. Non, non,
non. Ça fait un point pour Emmanuel.
Oui, Emmanuel s'est vraiment jeté sur le micro. Donc, étant donné que je ne connaissais pas vraiment, je n'ai pas spécialement d'anecdote. Mais le prochain, je préfère vous prévenir, il n'y a pas de parole, ça risque d'être plus compliqué. Et je pense que là, pour le coup, ça peut toucher toutes les générations autour de cette table. C'est parti. Oui. Elle l'a. Non, non, c'est... Donc, ouais. Il s'agissait bien de Tom et Jerry, je parle de glace. Le Tom et Jerry, et l'anecdote est un petit peu historique cette fois, c'est vachement intéressant. Le nom des personnages a en fait un rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Tom fait référence aux soldats anglais qu'on surnommait les Tommies sur le champ de bataille, et Jerry est le singulier de Jerry's employé par les soldats anglais et américains pour désigner l'ennemi allemand. Donc on n'imagine pas que derrière un dessin animé pour enfants, il y avait carrément de la propagande en fait. On passe au suivant, je ne sais pas s'il va être rapide, c'est parti. Là, Madame Kaku a trouvé très rapidement. Je pense qu'on peut. Ouais, là, on peut clairement accorder le point à Madame Kaku. Pour ceux qui n'ont, pour ceux qui ont pu voir la série, vous avez forcément vu leur maison, maison très atypique.
Oui.
Eh bien, figurez-vous que il y a des fans. Vraiment très très fans, je pense, qui se sont amusés à la reconstruire. Elle se trouve dans le village de Saint-Dié-des-Vosges, donc dans les Vosges, donc dans l'est de la France, si je ne dis pas de bêtises en géographie. Et c'est une maison d'hôte dans laquelle vous pouvez passer une nuit. Donc vous pouvez dire, j'ai dormi dans la maison des Barba Papa. Bon, alors le dernier, clairement, ça va crier. Je préfère prévenir. C'est parti.
Seulement quand je baisse le bras.
Seulement quand il baisse le bras.
Violetta.
Non, là, là, c'est Maëva qui a dit à brouiller. Si, si, vas-y, chante. Faut chanter. Tu peux chanter, y'a aucun problème. Oui, bon bah, j'avais prévenu, ce serait rapide. Donc Violetta, vous l'avez reconnue, cette série argentine. Et la chanson que vous venez d'entendre a vraiment, mais vraiment très bien marché, au point qu'elle a été 3 fois disque de platine en Argentine, 3 fois disque de platine en Espagne et disque d'or au Chili et au Brésil. Plutôt pas mal, juste pour un générique de dessin animé, non, même pas non. De série. Excusez-moi.
C'est pas un dessin animé, c'est une série et c'est très, très intéressant, donc je pense que c'est bien mérité. En
je
fait.
Pense que c'est très ridicule.
Je pense que c'est très bien mérité.
Très ridicule.
Oui.
Personne, non.
Ouais, donc oui. C'était Violetta et c'est déjà la fin de ce blind test. Il me semble juste qu'en termes de gagnants, on a beaucoup de points pour Maëva, 1 point pour Madame Kaku et 1 point pour Emmanuel. 2 points pour Madame Kaku, excusez-moi, et 1 point pour Emmanuel. Et puis les autres s'accordent des points comme ils veulent parce que je sais pas trop. C'est pas...
Bah, alors voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont suivi dans son intégralité. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Emmanuel, Glory, Manuela, Maëva, Michaela, Nora et Esteban qui a présenté avec moi une partie de l'émission. Un grand merci à nos invités et aussi un grand merci à François Hume sans qui cette web radio n'aurait probablement jamais vu le jour. On se dit à bientôt pour une prochaine émission sur Blaise Radio. Tous en cœur,
Blaise Radio.
Merci,
chers auditeurs,
d'avoir écouté notre émission. Et à la prochaine.
Bravo, bravo.
Avec Blaise Radio.